Je ne vous apprends rien si je dis que nous sommes vraiment à l'ère de la mondialisation. Mais cette mondialisation ne nous touche pas que de la façon dont nous l'espérions. Elle a des effets auxquels bien des gens n'avaient pas pensé. Du côté des tout-puissants du commerce, nous pensions voir de nouveaux continents devenir de lucratifs clients. Mais, note Jean-Louis Roy, ces continents en développement, comme on disait, visent maintenant nos marchés intérieurs. La richesse bascule.
Le basculement de la richesse de l'Ouest vers l'Est et le Sud du monde. Il est certain que après 1990, au moment de l'implosion de l'Union soviétique, l'Occident a fait un choix. Kissinger dit que c'est la plus grande erreur de l'histoire contemporaine. L'Occident a fait le choix suivant. L'Occident a décidé, on avait gagné. On avait gagné la guerre idéologique qui avait duré pendant 75 ans, 100 ans. Nous, on avait les Occidentaux, les Américains, les Européens avaient gagné. Donc, on a fait la parade de ceux qui gagnent. C'est-à-dire, ouvrez vos marchés. On veut que les capitaux circulent. On veut que les technologies circulent. On veut que les produits circulent, les biens, les services, que ça devienne, et c'est devenu ce que vous savez, la mondialisation. Et ce faisant, on a transféré vers le sud et surtout l'est du monde, vers la Chine notamment, l'Asie en général, nos entreprises, nos centres de recherche, nos technologies, etc. Avec l'objectif de produire pour leur marché. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont mis à produire pour les nôtres. Il s'est produit une inversion absolument extraordinaire. Il y a un basculement de la richesse de l'Ouest vers l'Est et le Sud du monde. L'Ouest est toujours là. On ne disparaîtra pas demain matin. Mais on n'est plus ceux qui produisons la richesse et la croissance. La croissance et la richesse, elle est produite maintenant partout. La maîtrise des technologies, elle est à peu près maîtrisée dans plusieurs grandes régions du monde, alors qu'avant, c'était le Japon, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, période. Aujourd'hui, c'est le Brésil, c'est le Mexique, c'est la Colombie, c'est la Turquie, c'est toute l'Europe de l'Ouest, c'est un peu la Russie, c'est les pays d'Asie centrale, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est Singapour, c'est Hong Kong, évidemment, c'est le Vietnam, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est le Kenya, c'est l'Égypte, le Maroc. Voilà. Voilà ce qui a changé. Et on est allé vers la Chine en premier. Rappelez-vous, qu'on parlait de la Chine comme le plus grand pays, le plus pauvre du monde. Je ne suis pas tout seul à me souvenir de ça. Et aujourd'hui, on parle de la Chine comme la deuxième économie mondiale et demain, la première économie mondiale. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire notamment que les marchés, y compris les marchés agricoles dans le monde, se sont transformés radicalement depuis 30 ans et vont continuer à se transformer. Ça veut dire qu'en faisant cette extraordinaire appropriation de la richesse, les Asiatiques ont sorti 700 millions de personnes de la pauvreté. Ce n'est pas rien. Nous, on regarde la mondialisation, on dit « merde, on a perdu ça, on a perdu ça ». Et voilà pourquoi les Américains ont élu le président actuel des États-Unis. Et voilà pourquoi l'Europe est en grande difficulté. Il y a un appauvrissement de l'Ouest, c'est clair. On a perdu quelque chose. On regarde la mondialisation en se disant « pas sûr ». Mais eux, ils regardent la mondialisation et se disent « c'est extraordinaire ce qui nous est arrivé et ce qui continue à nous arriver ». Ça, c'est la première chose qui est là et qui va rester pour aussi loin qu'on puisse voir.
Bien sûr, malgré des soubresauts, nos échanges avec notre meilleur client, les États-Unis, devraient continuer de nous être favorables. Mais pour tenir la route, pour être en mesure de faire rouler adéquatement notre économie, est-on, au Québec en particulier, bien conscient du problème démographique dans lequel nous nous trouvons?
D'ici 2048, il va naître 2,4 milliards de personnes. 2,4 milliards de personnes. On n'est pas dans cette démographie-là au Québec. La moitié de ces gens-là vont naître en Asie du Sud, dans les Sri Lanka, les Pakistan de ce bas-monde. L'autre moitié va naître en Afrique. L'Afrique, en 2048, va compter 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Une personne sur quatre va être africaine. Ceux qui disent, parlant du Québec et du Canada, que ces dernières années, notamment le Canada, on a abandonné l'Afrique, on avait créé depuis 1960 un crédit assez extraordinaire pour un petit pays comme le nôtre dans les affaires du monde. On a glissé depuis 15 ans à peu près dans le vide. Heureusement, le Québec vient de rétablir un peu sa présence en ayant une délégation du Québec à Dakar, une délégation à Abidjan et une délégation à Rabat. On retourne vers l'Afrique. Le monde entier va vers l'Afrique. La Turquie avait zéro ambassade en Afrique. Leur objectif est d'en avoir 54 dans 10 ans. La Chine a investi 275 milliards de dollars dans les 10 dernières années en Afrique. Les Américains commencent à y retourner, se disant « Oups, on est en train de perdre un continent ». Et ceux qui pensent que les Chinois vont juste exploiter les Africains, attention. D'abord, ils ne sont pas les premiers à exploiter les Africains. On l'a fait un peu avant eux, les Occidentaux. Ils sont là, mais ils ont défini l'Afrique différemment de nous. C'est ça la grande différence. Pour les Occidentaux, l'Afrique, c'était un lieu où on allait puiser des ressources. On les amenait chez nous, y compris les ressources humaines avec l'esclavage. La nouvelle relation de l'Afrique au monde, celle que définit la Chine, c'est toujours ça. Les Chinois, ils vont chercher des ressources en Afrique, c'est évident. Mais ils considèrent que l'Afrique, c'est un marché, qu'il y a 300 millions de personnes solvables en Afrique et qu'ils vont en avoir 600 millions et 1 milliard en 2048. Le marché de l'Afrique, y compris pour l'agriculture, va rester un grand marché. La démographie. La démographie, l'Europe va perdre 75 millions d'habitants d'ici 2048. Les États-Unis vont en gagner 100 millions. Voilà pour l'Occident. J'ai dit tantôt pour l'Afrique et pour l'Asie ce qui allait se passer. Donc, pour nous, les Québécois, notre premier marché étant ce que vous savez, les États-Unis, ce n'est pas un marché en décroissance vers 2048. C'est un marché en croissance. Et si on réussit à développer, comme on le fait en ce moment, notre présence sur les marchés asiatiques, on s'en sort pas trop mal. Les Européens vont avoir des très sérieux problèmes. Il y a des pays en Europe qui vont perdre presque le quart de leur population. Ça pose la question de l'immigration.
Autre démonstration d'une mondialisation méconnue par trop d'entre nous. Le numérique est partout, accessible à tous, utile pour vérifier le prix de la cacahuète sur les marchés, aussi bien que pour transiger la laine des paysans du Pérou. Pour ce qui est de l'environnement, on n'en est plus au ruisseau pollué. C'est la planète entière qui souffre. Et ça, si on ne le voit pas, les choses vont vraiment mal.
Il faut pousser sur cette affaire du climat, c'est évident. Il faut pousser au maximum, il ne faut jamais lâcher. Il y a des choses graves qui vont se produire si on ne va pas vite. Le changement climatique va plus vite que nous.
Jean-Louis Roy, réaliste, identifie les défis, mais voit également une grande force au Québec, la capacité de se distinguer.
Le travail. On fait quoi avec les travailleurs du Québec? On fait quoi avec les producteurs agricoles du Québec? Où sont les marchés de l'avenir? Moi, je dis investir dans la science et la technologie, c'est se donner une signature, y compris en agriculture, en production agroalimentaire, en transformation des matières de base. C'est se donner une signature d'excellence, traçabilité. La science, la technologie, c'est ça. C'est s'habiller d'une façon où on se fait reconnaître dans le monde comme un lieu où l'intelligence artificielle, elle ne se fait pas là comme ailleurs, où l'agriculture, elle ne se fait pas là par ailleurs, comme on l'a fait ailleurs, etc., etc.
L'important est de rester vigilant, de développer davantage notre analyse de l'évolution du monde et donc de s'impliquer.
Le pouvoir de définir les normes, y compris dans le secteur agricole, le pouvoir de mettre à jour les normes dans le transport, dans les questions environnementales, dans tout ce qui touche la réalité des choses, d'autres vont en décider que nous. On était le Québec, en Occident, dans la partie du monde qui décidait. On était dans un premier temps avec la plus grande puissance qui était la Grande-Bretagne et dans un deuxième temps, voisin de la plus grande puissance qui a succédé à la Grande-Bretagne, qui était les États-Unis. On était dans une espèce de cocon quand même de pouvoir mondial. Ce pouvoir-là va aller déclinant, il ne disparaît pas. Mais notre capacité de négocier n'est plus la même qu'elle était, c'est clair. C'est sûr que le président des États-Unis, Nixon, qui est allé voir Mao Tse-tung, il pouvait dire des choses à Mao Tse-tung que le président des États-Unis actuellement ne peut pas lui dire. Parce que le président des États-Unis parlait à Mao Tse-tung qui dirige un pays très pauvre. Le président des États-Unis parle à son concurrent immédiat, le président actuel des États-Unis. Alors, voilà pourquoi il faut rester engagé en politique. Voilà pourquoi il faut suivre ce que nos gouvernements font. Vous venez de le faire avec l'ALENA. On ne peut pas laisser les choses ça devient plus exigeant, plus important, plus significatif qu'on débatte, qu'on comprenne ce que les femmes et les hommes politiques définissent comme programme, comme idée. Qu'est-ce qu'ils nous mettent sur la table? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Ils veulent nous amener où? Parce que c'est eux un peu. Et je crois qu'on va voir d'ici 2048 les modes de gouvernance, même locale, changer. Les villes vont prendre beaucoup d'importance. Les gouvernements locaux, pas simplement les grandes villes, bien sûr les grandes villes. Et honnêtement, toute personne qui devant vous dit « il y a Montréal et le reste du Québec », il ne faut pas laisser les gens divaguer. On n'a pas les moyens au Québec de séparer Montréal du reste du Québec. On a besoin d'une très grande ville qui nous relie à sa façon des grandes villes avec les autres grandes villes du monde. Mais on a besoin que les villes intermédiaires, celles, la capitale nationale, est une, que ça reste pour le Québec des centres réels où il se passe de vraies affaires. Pas simplement des mines et pas simplement de la coupe de bois, mais qu'on cherche. On ne va pas trouver tout le temps, on va se tromper. C'est ça qu'on a fait dans les années 60 avec toutes les grandes études qu'on faisait sur la Gaspésie, etc. Et finalement, on a trouvé, dans certains cas, des formules. Il faut rester réengagé. Il faut que des mouvements comme le vôtre parlent, disent les choses comme vous le faites, fort heureusement, continuez à le faire. Ce qui nous attend est à la fois, de maintenant à 2048, une période extraordinaire d'ajustement. On ne peut pas se tromper trop. Il faut avoir des fines stratégies si on veut y arriver bien. Parce que mais si on regarde quand même froidement notre niveau de vie, notre niveau de sécurité, qu'est-ce que les gens veulent dans le monde? Ils veulent trois choses. Un niveau de vie convenable, un régime de droits et libertés élevé et de la compassion sociale. Où que vous allez dans le monde, les gens vont vous dire ça. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas trop mal. On est dans les moyennes hautes quand même. Il faut pas baisser.
Ici Lionel Levac. Le secteur agroalimentaire est assurément l'un de ceux où les pressions de toutes sortes seront les plus importantes dans l'avenir. Dans mon prochain blog, comme on dit, je vais en remettre, avec Jean-Louis Roy qui parlera d'environnement, de transport et aussi d'alphabétisation. Au revoir.